Radio. Radio. Radio.
Would you like a cup of coffee?
That's the most stupid thing I ever heard of.
I promise.
You should put this up when he met.
We're going to have lots of happy times together.
Clap. Le cinéma qui s'écoute.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Clap, l'émission du cinéma qui s'écoute. Aujourd'hui, nous sommes en direct, oui, nous sommes en direct de la Kino Fiesta à la MES, la Maison de l'économie solidaire de Ramonville. Nous sommes en direct de maintenant jusqu'à à peu près 18h15, je dirais, si on trouve toutes les choses qu'il faut qu'on vous dise jusqu'à 18h15. Alors la Kino Fiesta c'est le festival de Kaleidos Film, c'est un petit peu notre fête de fin d'année, c'est pour ça aussi qu'on est là avec Clap, et c'est un festival de cinéma et de musique où il va se passer tout plein de choses jusqu'à dimanche, et du coup on va discuter avec plein de gens qui sont venus nous présenter des films, des sons, on va discuter avec des musiciens et on va voilà, vous faire un petit peu un tour d'horizon du festival, et je vais présenter cette émission avec Hugo. Bonjour Hugo.
Bonjour Boubou.
Ça va bien Hugo, tu n'es pas trop fatigué de notre super soirée d'hier?
Oui, ça va très bien.
Bon, alors moi je vais vous expliquer un petit peu d'abord ce qu'on va pouvoir voir et écouter à la Kino Fiesta. Je vais vous dire un petit peu le programme. En gros, sur la Kino Fiesta, on a ce qu'on appelle le Palace. C'est un super lieu où on passe des courts-métrages de maintenant jusqu'à à peu près la fin d'après-midi. Des courts-métrages parmi lesquels vous pourrez trouver les films de l'association Kaleidos Film si jamais ça vous intéresse. On a aussi une yourte sonore où vous pouvez venir vous poser, écouter des docu-sons, discuter avec les réalisateurs, les réalisatrices. Et on a aussi du coup ce soir des concerts. Alors en concert ce soir, nous avons à 19h Iris Trio, ensuite à 20h30 nous avons Aluminé Guerrero et Les Enfants Perdus. Et à 22h commencent les projections ciné-concerts et les cartes blanches à Séquence Court-Métrage, qui est une association de copains qui nous aide à faire ce festival. Donc voilà. Et demain, dimanche, ça reprend. On ouvre le festival à 14h, toujours avec le Palace et la Yourte, donc des courts-métrages et des docs sonores, et avec un petit concert de Obdia à 18h30. Voilà pour la programmation du festival.
Alors, on s'est dit aussi que comme on était en direct et qu'on trouve ça rigolo, parce qu'on n'avait jamais fait ça avant, si vous voulez nous envoyer un petit mot à diffuser à la radio sur Onde Courte, vous pouvez. Il faut nous envoyer un SMS au 07 69 71 30 55. Et si le mot nous convient, on le diffusera.
On redit le numéro une deuxième fois, comme ça les gens ils ont le temps de noter.
Mais bien sûr, Boubou. 07 69 71 30, 55.
Voilà. Vous pouvez envoyer des petits mots d'amour ou des petits mots de haine, ça dépend de votre humeur.
Voilà. Donc nous sommes aussi en ce moment avec Claire de Caracol, qui est une des associations qui fait partie du collectif de la maison. Bonjour Claire.
Bonjour.
Est-ce que tu veux nous parler du collectif de la maison et de ce lieu, de ce qui oui. en fait partie, ce qu'il est?
Qu'est-ce que la messe en fait,
voilà.
À part l'endroit où on va le dimanche. Mais là on vient tous les jours. La messe c'est la maison d'économie sociale et solidaire. Ça se passe à Ramonville, de l'autre côté du canal, de l'autre côté du pont de Manche-Pomme. Donc c'est une maison qui réunit pas mal de structures, une douzaine qui sont là régulièrement. Et en fait, c'est un lieu de travail, d'échange, d'expérimentation, de partage autour des valeurs de mutualisation, de partage, d'une autre économie autre que l'économie linéaire. D'ailleurs, notre projet, c'est de transformer la MES en MEC, maison d'économie circulaire, voilà, et d'expérimenter une nouvelle économie autre que l'économie linéaire qui consiste à aller chercher des ressources dans le sous-sol, de les transformer en produits, de les faire se consommer et ensuite on les jette et on alimente les décharges. L'économie circulaire, au contraire, c'est que chaque produit trouve une vie longue et à l'échelle des structures de la maison, quelque chose qui sortirait d'une structure eh bien, pourrait y rentrer dans une autre. Par exemple, la méthanisation qu'on fait dans la maison produit un engrais super qui irait très bien dans le jardin partagé de Caracol. Bon, mais qui sont ces associations qui ouais. peuplent la maison? En fait, on est d'activités très, très diverses. Il y a des associations qui parlent d'éco-construction, comme Debout Friture, Arezzo. On a un bureau aussi qui est dédié à Alternatiba, qui montre les alternatives au réchauffement climatique. Un bureau pour Caracol, DIR à des jardins pour sauvegarder la biodiversité autour de nous. MITSA propose des couches lavables et réduit ainsi les déchets. Picojoule travaille dans la méthanisation. RDB Productions, c'est une association de production de spectacles vivants. L'atelier La Rouflaquette fait du bricolage et restaure des objets. Roule ma frite, c'est un garage solidaire qui habite à côté de chez nous. Super Fruit, un studio graphique qui fait de la sérigraphie sur crêpes avec du chocolat. Et Celle Cocagne, en fait, c'est un système d'échange local avec des échanges de services, d'objets, etc.
Et depuis combien de temps il existe, collectif ?
Donc la maison existe depuis une bonne vingtaine d'années en tant qu'économie sociale et solidaire. Et depuis 3 ans, en fait, il y a 3 ans, il y a eu un mouvement avec la création du Périscope, qui est un PTCE, un pôle territorial de coopération économique. Donc pas mal de structures qui travaillaient dans la maison sont parties au Périscope. Et ça a fait un appel d'air et du coup, plein d'associations ont rejoint les historiques, donc comme Caracol et Arizo. Et on a créé il y a 3 ans le collectif La Maison. C'est l'association en fait, qui fédère toutes les structures qui œuvrent dans la maison. Voilà. Et c'est le collectif La Maison qui a ce projet d'économie circulaire et aussi un projet d'éco-centre, c'est-à-dire rénover la maison, la mettre aux normes et construire à côté un bâtiment éco-construit en bottes de paille, positif en énergie et qui accueillerait en fait, plein d'activités qu'on va développer pour les habitants, pour des activités de mutualisation, de partage, des ateliers, des formations, des événements, etc., à destination des habitants du quartier, pour informer sur ce que c'est que l'économie circulaire et l'éco-construction.
Du coup, pour résumer de ce que je comprends de l'économie circulaire à la messe, c'est l'idée qu'il y a un collectif, enfin il y a plusieurs associations qui sont chacune spécialisées sur un domaine en particulier et qui se rendent compte qu'elles peuvent être utiles les unes pour les autres et qui sont fédérées au sein d'un collectif qui va permettre de créer des liens et des échanges entre elles.
C'est ça. L'économie circulaire, c'est à la fois mettre les flux de ressources et les flux de matériaux en boucle vertueuse de façon à faire du recyclage et à limiter l'exploitation des ressources. Mais c'est également tout un aspect, et ce n'est pas le plus simple, de coopération entre les acteurs pour que les structures coopèrent, partagent leurs ressources, valorisent leurs déchets, etc. Donc c'est vraiment un chantier de coopération et de mutualisation.
Et alors, comme tu fais partie de Caracol, est-ce que tu as envie de nous parler un peu de cette association ? Parce qu'elle a été impliquée dans ce festival, dans l'organisation et dans la... Elle nous a prêté plein de matériel qu'on utilise un peu partout dans le lieu. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu comment ça marche, ce que c'est ?
Donc Caracol, c'est très très difficile à dire en 3 mots, mais je vais essayer. Ça existe depuis 15 ans et c'est né à partir d'un bus Saviem des années 70 qui a été acheté par quelques Ramonvillois. Et ces Ramonvillois avaient participé à des actions de solidarité lors de la guerre des Balkans avec des Ramonvillois autres, réfugiés, dont un couple d'Albanais qui leur a dit « Nous, ça nous ferait vraiment plaisir pour vous remercier de vous faire visiter l'Albanie, de nous montrer notre pays, etc. » Donc ils sont partis à 30 dans ce bus pendant un mois et ça a été un voyage initiatique à la rencontre des habitants d'Albanie qui venaient juste de sortir de la guerre en fait. Et au retour à Ramonville, ils ont décidé de créer une association Caracol qui est vraiment basée sur des valeurs de partage de culture, de solidarité entre les peuples et de protection de la planète. Et depuis 15 ans, donc, on existe. Le bus Caracol nous a emmenés faire des voyages extraordinaires à la rencontre de luttes, à la rencontre de producteurs locaux, à la rencontre d'autres cultures. Et ça nous a appris le collectif et ça nous a mis en marche. Et en fait, maintenant, on dit qu'on est un laboratoire, un joyeux laboratoire d'alternatives. C'est-à-dire que dans Caracol, dès qu'il y a quelqu'un qui a une idée de projet et qu'il y a quelques personnes qui se portent volontaires et responsables pour mener le projet, eh bien, Caracol les aide à porter ce projet-là. Donc du coup, Caracol, c'est devenu une association avec plein de choses, plein de diverticules, des commissions qui sont créées de partout. Donc on a le Carabricole qui continue à exploiter le bus parce que le bus ne peut plus rouler en bus de voyageurs depuis un certain Macron qui a mis plein de réglementations sur les bus. Donc nous, on ne pouvait pas tricoter des ceintures de sécurité réglementaires. Donc on a été obligés d'arrêter notre activité de transport de Donc le bus est devenu poids lourd et maintenant c'est un Carabricole, c'est unique en France et voire même en Europe. C'est-à-dire que c'est un atelier de bricolage itinérant qui va organiser des cafés bricoles un peu partout autour de Ramonville.
Okay.
Voilà, donc ça c'est une des commissions, mais il y a aussi la commission CABA, c'est la Caracole Bienvenue au Souk, qui organise tous les deux mois à la messe un marché de producteurs avec une vingtaine de producteurs qui viennent distribuer leurs produits, un peu à la façon des AMAP, mais pas tout à fait. Après, il y a une chorale, il y a un jardin partagé aussi sur la messe, un jardin où on est une quinzaine à cultiver la terre, mais de façon partagée. C'est-à-dire que chacun n'a pas son petit lopin de terre, mais on discute pour savoir comment on peut mener le jardin collectivement. Voilà, je vais oublier, il y a le vide-grenier qu'on organise dimanche prochain, la fête de la musique aussi que Caracol organise. La fête de la musique c'est samedi prochain, le vide-grenier c'est dimanche 24.
D'accord.
Voilà.
Et il y a combien d'adhérents maintenant à cette association ?
Dans Caracol, on est 300 adhérents, surtout au niveau des circuits courts. Il y a un circuit court avec l'Espagne, avec des agrumes espagnols, et puis le CABA aussi qui réunit.
Donc c'est vraiment
une
association qui est ancrée dans la vie ramonvilloise.
C'est une association, voilà, on a nos bureaux à la messe et on intervient pas mal dans l'animation de Ramonville. On organise vraiment le vide-grenier. C'est un éco-vide-grenier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déchets à l'issue du vide-grenier.
D'accord.
Et Maïs vient nous prêter son camion pour emmener tout ce qui reste à l'issue du vide-grenier.
Ok.
Voilà.
Très bien.
Eh bien, ça résume un peu la chose, non ?
Ouais.
Tu reçois des textos, Hugo, je ne sais pas si c'est personnel ou si c'est des gens,
non.
Des copains qui se disent « Tiens, Hugo est en direct à la radio ».
Non, je pense que c'est...
Oui, Claire.
Juste rajouter peut-être une information importante pour les Ramonvillois et tous ceux qui nous écoutent, c'est que le 23 septembre, au port technique de Ramonville, à côté de la salle des fêtes, se tiendra le Alternativa Ramonville. On fera passer de l'info, mais d'ores et déjà, notez la date dans votre agenda, ça risque d'être pas mal.
Très bien.
Mais super. Merci beaucoup, Claire, d'être venue présenter la messe et Caracol.
On redit toujours, si vous voulez nous envoyer des petits mots, des questions, des remarques, vous pouvez le faire au 07 69 71 30 55.
Et si vous voulez nous rejoindre sur le festival, parce que c'est un peu ça le but aussi de cette émission, on vous donne quand même l'adresse que je crois qu'on n'a pas donnée au cas où les gens aient la flemme de chercher la messe sur Google. C'est 73 chemin de Manche-Pomme, donc à Ramonville. Et du coup, vous pouvez prendre le métro pour venir jusqu'à Ramonville et marcher le long du canal. Il fait beau, c'est très sympa. Ou sinon, Calidos Film a mis en place une péniche qui peut vous amener depuis le port Saint-Sauveur jusqu'au port...
Non,
pas port Saint-Sauveur. Non.
Ah oui, pardon.
Depuis le métro Ramonville. Oui, pardon. Depuis le métro Ramonville jusqu'à la messe. Ça fait une petite balade en péniche et il y a quelqu'un qui joue de la harpe sur la péniche.
Non, du piano.
Et si vous voulez les informations avec les horaires, parce qu'évidemment, je ne les ai pas là, vous pouvez aller sur la page Facebook de la Kino Fiesta ou même de... Non, de la Kino Fiesta. Et vous aurez toutes les horaires de navette de la péniche. Voilà, si vous voulez nous rejoindre au fil de l'eau. C'est beau,
voilà,
ce que je viens de dire.
On est censé parler avec des musiciens maintenant, non ?
Oui, on est censé parler avec Sylvain, qui est en fait la personne qui nous chapeaute de onde courte, qui pose son assiette, qui nous fait la technique, qui est multifonction. Et on est censé parler avec Sylvain parce que ce soir, pendant... il faut que je retrouve mon programme. Pendant le ciné-concert de ce soir, donc celui de...
22h.
De 22h, merci Sylvain. Donc pendant 22 heures, il y a donc... Comment se prononce le nom ? Interheim ? Interheim,
ouais.
Donc.
Genau, ouais.
D'accord.
Super, ça.
Qui va jouer... Je suis complètement paumée dans mes programmes, là, dites donc.
Oui, je joue aujourd'hui à 22h30.
Ouais. Et les films sur lesquels tu joues ?
C'est un film de Jean Vigo qui s'appelle À propos de Nice.
C'est ça.
C'est un court-métrage de... Enfin, un moyen-métrage de 22 minutes 30.
Ouais.
Et
tu vas nous jouer de la musique dessus,
oui, voilà, c'est ça. Et donc, du coup... J'utilise des morceaux que je joue déjà avec un projet solo qui s'appelle Interheim, qui est un projet de boucle de guitare et de sample qui est entre le post-rock et le drone, donc qui ressemblerait à des groupes entre Mogwai, Godspeed You Black Emperor, en fait toute la scène post-rock mais sans chant et du coup sans batterie. Et j'ai fait des nouveaux morceaux pour coller à ce film et j'ai modifié aussi un ou deux anciens morceaux pour que ça colle sur les images. Et du coup, c'est pour moi une première expérience parce que d'habitude, c'est l'inverse. Sur les compos, je faisais des montages vidéo et là, c'est l'inverse.
Et sache comment t'as bossé alors, enfin comment tu... Parce que nous, on t'a envoyé le film. Comment tu, une fois que tu reçois le film, comment tu procèdes pour trouver ta musique?
Ouais, c'est nous qui avons proposé le film.
Oui, c'est nous qui avons... Voilà, c'est Kalidos Film qui a proposé le film du coup à Interrail.
J'ai eu deux choix.
Et voilà. Voilà.
Et du coup, j'ai choisi le moyen métrage parce qu'on m'avait proposé deux ou trois courts métrages et j'ai préféré prendre un long métrage, enfin un moyen métrage qui raconte plus une histoire. Et comment j'ai fait ça? Après l'avoir visionné une ou deux fois, donc déjà il faut dire que c'est un film qui a, où il n'y a pas de parole, c'est que de la que de la vidéo. Il y avait déjà de la musique dessus qui était plutôt accordéon, piano.
Oui, c'est Marc Perron, je crois, ouais, qui avait fait la musique de Jean Vigo.
Et donc du coup, j'ai une première écoute avec le son, visualisation avec le son et la musique, et une deuxième sans le son. Et en prenant des notes de temps pour essayer d'imaginer des séquences.
Ouais.
Et ça a été un premier travail que j'ai répété deux ou trois fois pour essayer d'imaginer des séquences de films. Parce que y a beaucoup de choses qui se passent et moi, mes morceaux sont un peu longs et j'ai l'habitude de faire des trucs un peu longs. Donc ça a été un peu le challenge d'essayer de trouver des séquences de 4-5 minutes. Et après avoir fait ça... J'ai essayé de remplir les espaces vides par des compos que j'ai un peu rebidouillés pour que ça rentre dedans et en faisant de nouvelles compos sur des endroits où j'avais aucune idée qu'est-ce que je pouvais faire. Trouver quelques samples entre les morceaux pour faire des virgules sonores. Et voilà, ça a pris un peu de temps, c'est juste prêt. Je me suis fait un peu déborder par le temps. Non, mais c'est après comment fonctionner, c'est jouer avec le film qui tourne devant et avec un chronomètre et refaire.
Ouais.
Voilà.
Je fais une petite parenthèse parce que du coup Hugo vient de s'enfuir du plateau et Marie que vous avez déjà entendu dans le clap vient de nous retrouver. Bonjour Marie.
Bonjour Sylvain.
Et bouche pleine Sylvain. Et ouais, Marie venait du coup pour discuter avec Sylvain parce que Marie m'a dit j'ai eu une conversation super intéressante avec Sylvain par rapport au ciné-concert et du coup il faut trop qu'on en discute ensemble. T'as des questions pour Sylvain, Marie?
Oui, enfin, moi c'était plus si tu pouvais nous raconter ton histoire en Autriche dans ce hangar où tu trouvais des films. Enfin, je trouve en tout cas moi c'est ce que j'ai pris comme un peu le début de toi qui fais du ciné-concert.
Ouais, c'est ça.
Et ça parlait du film de famille qui est un truc sur lequel moi je bosse cette année. Donc, donc si tu peux nous raconter ça et puis je te poserai des questions.
Oui, mais c'était du coup il y a deux ans en Autriche, dans la région du Tyrol, la ville c'est Innsbruck. Et c'est une ville de à peu près 150 000 habitants. Et dans cette ville, il y a un lieu qui s'appelle la Bakeray. La Bakeray, ça veut dire boulangerie, mais c'est une ancienne minoterie-boulangerie des années début du siècle dernier, des années 15, des années 40 à peu près. Ils avaient une belle usine, elle était au centre de la ville. C'était 1000 mètres carrés. Et après-guerre, ils sont délocalisés à l'extérieur de la ville. Et ce bâtiment, en gros, il est resté vide pendant une cinquantaine d'années. Et c'est au début des années 2000 qu'ils ont commencé à valoriser ce lieu. Et en 2010, ils ont vraiment ouvert, parce qu'ils ont essayé d'ouvrir tout d'un coup. Parce qu'ils ont fait d'autres projets itinérants. Bon, c'est une histoire, c'est un réseau de personnes qui se sont mis ensemble. Et puis petit à petit, ils ont monté cet espace. Donc ça appartient toujours à une entreprise qui s'appelle Emprise. Et Emprise, si on fait un parallèle en France, ce serait les Édouard Leclerc. Donc okay. C'est des gens qui ont monté une épicerie. Édouard Leclerc, c'est une épicerie à un gros supermarché. Et eux, c'est une boulangerie qui s'est transformée en chaîne de supermarché. La seule différence, c'est qu'ils ont dit qu'ils restent dans une région. C'est-à-dire qu'ils font des supermarchés que au Tyrol. C'est comme si Leclerc avait resté qu'en Bretagne. Donc c'est important de dire ça parce que vous allez voir pourquoi. Avec
il y a un ancrage régional.
Ouais, voilà, c'est un ancrage régional. Et du coup, dans les travaux de raménagement du site, il faut imaginer qu'il y a 1000 mètres carrés et ça ressemble à en grand, de l'extérieur, ça fait un grand immeuble, mais à l'intérieur, ça fait vraiment usine. Donc, parce qu'il y avait à la base la famille bourgeoise qui habitait au premier, au deuxième étage. Et au deuxième étage, il y a encore un escalier qui monte sous les combles. Et il y a maintenant 5 ans, ils ont nettoyé les combles parce qu'il y avait encore toutes les affaires de la arrière-grand-mère d'une des personnes qui anime le lieu, qui est décédée. Et à son décès, ils ont osé aller nettoyer ce grenier et il y avait plein de caisses, des cartons. Enfin, vous pouvez imaginer ce qu'on peut trouver dans un grenier d'une famille bourgeoise et dont une cantine en fer remplie de films 8 mm et un peu de Super 8. Donc un peu surpris de trouver une caisse comme ça, ils se sont proches aussi, enfin un rétro vidéoprojecteur Super 8,
un projecteur
tout simplement, qui ne marchait plus, donc ils ont récupéré un super. Ils ont fait une vision un peu privée entre eux, pour voir ce qu'il y avait dedans, et ils ont vu deux choses, des films, si on peut dire, d'entreprise, et des films de famille. Et dans les films de famille, ça peut partir sur deux directions. Films de famille privés, donc des rassemblements de famille, des histoires d'anecdotes de famille. Et l'histoire de Helmut, je crois, je ne me rappelle plus son prénom, j'ai un maître de mémoire, qui avait une vingtaine d'années, qui a filmé toute sa vie, en gros, et qui a raconté des histoires. Ça veut dire à chaque fois qu'il allait filmer quelque chose, il se faisait un carton, il filmait ce qu'il allait... Par exemple, aujourd'hui, s'il filmait le festival, avant d'arriver, il filmait... Il écrivait la maison de l'économie sociale solidaire et il filmait ce qui se passait.
Et c'était à quelle époque, du coup, Helmut ?
Alors, Helmut, c'est... Alors, il commence dans les années 30 et ça se finit... Alors, on ne sait pas trop, mais on pense que c'est 43 ou 40... Ouais, 43, parce qu'il est mort à la guerre et il avait pris sa caméra et il s'est fait embarquer par les Allemands, donc par l'armée nazie. Et lui, ses derniers films qu'il a envoyés, et les derniers films qu'il y a, ils sont en Scandinavie. Et après avoir discuté, enfin, moi personnellement, avoir discuté avec Christina, qui est la petite fille des personnes qui ont monté cette entreprise, elle est allée vous voir, parce que dans la famille, des histoires. Bref, elle a retrouvé sa tombe et il est mort au front russe. Voilà. Donc,
Et à la guerre, il filmait pour lui ou il filmait pour...
Alors, à la guerre, il filmait pour lui, apparemment. Et c'était essentiellement des exercices. Donc, je me rappelle de trois films. Un film sur les ports de Hambourg où il charge des bateaux. Un film qui se passe au Danemark, en version, on est dans des camps, on fait des entraînements. Donc, il y a des marches, des exercices, tu vois, qui se cachent. Enfin, il y a des jeux de guerre. Et de la vie de la caserne, mais c'était une caserne qui était montée de toutes pièces dans la forêt. Et une autre partie où on voit qu'ils font des excursions en bateau, des petits bateaux. Et là, on a pu voir deux noms de ports suédois.
Et du coup, toi, tu tombes sur ces films ?
Ouais, enfin, moi, je suis tombé a posteriori, ça veut dire quand ils les avaient déjà numérisés.
Ok.
Et après avoir parlé avec Christina, on me dit « Ah, mais on a ces films, qu'est-ce qu'on pourrait en faire pour les valoriser dans le lieu culturel ?» Parce qu'ils ont fait un deal avec les archives de la ville, c'est-à-dire qu'ils ont numérisé, la ville Innsbruck a numérisé les films, et eux, ils ont donné les films.
Ils ont fait le support, ouais. Le support pellicule, ouais, ouais, ils l'ont donné aux archives. Ouais. Okay.
Parce qu'il y avait des choses à restaurer, donc ils ont, eux, nous, on veut récupérer la numérisation. Parce que les films, on a peur de les abîmer, voilà. Et il faut que ça soit important, je pense, ce qu'il disait ça, parce qu'il y a vraiment des choses de vie de la ville dans les années 30. Du genre, il y a des défilés des astrofascistes, donc c'était la deuxième extrême droite autrichienne, juste avant la guerre civile. Donc il y avait des choses qui se montaient, on sent qu'il y a des tensions au sein de la ville. Il y a une ville qui vit dans les années 30 avec des accidents de voiture, avec des hipsters partout, surtout dans des fixies, des chaussettes et des t-shirts, assez drôle. Et ensuite, la vie de Helmut avec sa copine. Et donc là, on découvre surtout les alentours. Et surtout, on voit la vie d'une vie bourgeoise aussi. On découvre la vie bourgeoise. De...
Avec l'installation quand même d'un régime totalitaire. Quoi.
Alors du coup, ça se passe avant. Okay. Et on voit que ça se bascule, ils filment, on voit comment ça se bascule, parce que par exemple, il y a une séquence qui est assez... Alors c'est toujours pareil, tu ne sais pas comment les prendre ces séquences, mais il y a des trains remplis de soldats. Alors, mais c'est les mêmes trains où on mettait des juifs pour les camps de concentration. Donc c'est les mêmes trains, donc c'est assez particulier comme image. Donc ils ouvrent ces grandes portes et donc il y a des soldats à l'intérieur. Et eux, ils donnent des PEM. Enfin, tu vois qu'il y a plein de gens de l'entreprise, de la Bacorail, de Elm Price, pardon, qui fournissent du pain à ces soldats. Et donc, du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Et puis, c'est tombé pour l'anniversaire des 5 ans, 2 mois avant, où j'étais passé par hasard en Autriche. Et donc, du coup, j'ai récupéré tous les films. Et j'ai fait l'inverse de ce que j'ai fait pour ce soir. C'est-à-dire que j'avais des morceaux et j'ai essayé de faire un montage et raconter une histoire. Donc on pourrait dire qu'il y a 3 chapitres du film d'entreprise qui explique un peu le lieu. Donc on découvre le travail des ouvriers tout simplement. On découvre aussi la vie du marché parce qu'ils vendaient le pain à l'époque au marché. Donc ils n'avaient pas de boutique. Enfin, ils ont une boutique à l'entreprise, mais c'était pas on peut pas dire une chaîne de distribution. Et ça, c'était la première partie. Et on voit aussi la stratégie de l'entreprise pour dire ce serait bien qu'on passe de l'étape de boulangerie à épicerie. Donc, ça veut dire qu'ils avaient déjà cette notion comment détruire la concurrence. Parce qu'il y avait marqué ça, il y a des cartons, ah ouais. Et dire il faut rattraper la concurrence, si je peux le traduire un peu en français. Et après, deuxième, c'est la vie de la famille bourgeoise, donc avec ses excursions à des lacs, des repas de famille, avec quelqu'un qui se fait opérer par exemple et tu le vois en train de fumer à l'hôpital et être soigné par des infirmières, enfin des nonnes quoi. Et la troisième partie, c'est la vie amoureuse de Helmut avec cette fille qui s'appelle Izzy. Ouais.
Et du coup, toi, tu as fait un montage pour pouvoir... faire coller tes morceaux, ça matche avec tes morceaux.
Oui, voilà. J'ai un peu aussi modifié les morceaux, mais en gros, on a monté une demi-heure, comme ça. Ça a été validé par...
les archives.
Pas les archives, mais par la Bacorail, parce que c'était leurs histoires. Et l'idée, en plus, ils ont invité leur famille, donc, qui est toujours bourgeoise, mais qui n'avait jamais vu tous ces films, en fait. Ils n'ont pas pris le temps de regarder les archives, parce qu'ils avaient, ils ont fourni... 15 heures de film, je sais plus, quelque chose comme ça. Et non, c'était c'est assez fou de la maîtrise en fait de Helmut qui filmait. Parce qu'essentiellement, c'est tout lui qui a filmé. On pense qu'il a 23-24 ans au moment où il filme sa vie amoureuse et des choses comme ça. Mais c'est lui aussi qui filme les films d'entreprise parce que. On le voit de temps en temps par des ombres. Enfin,
et tu sens la différence de manière de filmer pour quand il filme pour lui ou pour quand il filme pour de la commande ou...
Alors du coup, pour la commande, enfin, pour la famille, côté entreprise, c'est très classique. C'est soit des plans fixes, soit il suit son cousin, en fait, son cousin qui est le boss et qui fait de la stratégie à l'américaine, c'est assez drôle, la qualité à la version américaine, c'est assez capitaliste dans l'esprit, c'est-à-dire que trash ACCP, si on peut parler avec le jargon aujourd'hui d'agroalimentaire, qui montre tout le process de fabrication, c'est assez rigolo. Et après il fait pas mal de travelling, il est en vélo, il filme des choses, il descend des petits chemins. Quand il filme à place de prendre comme ça, il fait des jeux de caméra qui sont assez surprenants. Je crois que j'en ai même là. Je montrerai après à la fin. Yes.
Et du coup, c'était un peu ton premier ciné-concert ?
Oui, voilà, c'était ça. C'était le premier ciné-concert où j'essayais vraiment de construire une narration musicale sur les images.
Et tu l'as montré que dans ce cadre-là ou tu l'as t'as un peu de droit sur ces images ou t'as dû comment ça s'est
droit,
passé
en fait, non il y a pas donc y a, je sais pas, on n'a même pas parlé de droit. Enfin, moi j'ai fait qu'une représentation.
D'accord.
Voilà, après
c'était une représentation unique quoi. Ouais. Ok,
j'ai encore les choses mais c'est vrai qu'on n'a jamais pas on n'a même pas parlé de droit au moment.
C'est toujours un peu compliqué avec les films de famille
comment
retrouvés,
ça se passe
ben ouais. Autant que faire se peut, on trouve des gens qui ont les droits dessus, donc la famille, ou sinon des ayants droit, donc des gens qui ont récupéré les films et qui ont un papier qui disent que c'est eux qui les gèrent, quoi. Mais du coup, dès qu'il y a une utilisation à faire, il faut retrouver les. Enfin, à la Cinémathèque, en tout cas, là, à Toulouse, où je travaille pour l'instant, il y a deux cas. Il y a trois cas. Il y a les films orphelins, les œuvres orphelines. Du coup, il faut toujours faire apparaître la mention. On l'utilise pour l'instant, mais si jamais quelqu'un reconnaît quelque chose, on créera un contrat à ce moment-là. Il y a les œuvres où il y a des ayants droit, donc la famille ou des gens qui ont le papier qui certifie que c'est eux qui ont le droit sur ces images. Et après, il y a des œuvres où il y a juste des déposants. Donc des gens qui, à un moment, ont reçu les œuvres, mais n'ont pas les droits dessus, mais finalement, c'est eux qui ont pris la charge de les faire archiver. Donc ça, c'est un peu le cas un peu ambigu, parce que eux, ils n'ont pas vraiment le droit de te dire non, mais en même temps, c'est le seul contact que tu as. Oui ou non, et du coup, il faut toujours se protéger avec ça, parce que...
Surtout
pour des archives retrouvées au fond d'un grenier, quoi.
Ouais, parce que moi, par exemple, je chine un petit peu, j'en ai trouvé quelques films Super 8 il y a quelques années, des films de famille. Moi, j'ai des films de famille qui sont partis en fait à ma grand-mère, parce que c'était mon grand-père qui filmait. Comment ça se passe dans ce cas? Il faut que, d'un côté, je sais pas d'où ils sortent ces films, donc c'est...
C'est des films qui leur appartenent à eux ou qu'ils ont tourné, eux?
Il y a les deux. C'est des films qu'ils ont récupérés de... Genre, ils savent pas d'où...
Je pense qu'à partir de ce moment-là, il faut voir si on n'établit pas un contrat où c'est eux qui sont les ayants droit et qui te lèguent ça, d'accord, en fait. Et après, c'est un peu pareil pour les œuvres qui ont... Parce que souvent, il y a des actualités, tu te retrouves des actualités ou des documentaires de l'époque. Ça reste quand même des œuvres orphelines, quoi. Ouais. Quand on est sur du film amateur, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une appropriation par le possesseur. Mais par contre, quand on reste sur de la commande... Il y a un peu plus de législation, quoi. Merci Sylvain.
Merci Sylvain. Je rappelle que du coup, si vous voulez entendre Interheim en ciné-concert, donc sur le film de Jean Vigo à propos de Nice, il faudra être à la Kino Fiesta à 22h20. Et voilà. Et après toute cette discussion, vous comprendrez peut-être un petit peu mieux en entendant la musique. Je sais pas.
Voilà.
La Kino Fiesta, le festival d'audiovisuel, le 8, 9 et 10 juin à l'ombre des arbres du jardin de la Maison de l'économie solidaire de Ramonville. Des après-midi ateliers, projections, installations sonores et radio ondes courtes en direct. Des soirées concerts, DJ set, ciné-concerts et créations vidéo. Rendez-vous le 8, 9, 10 juin au 73 chemin de Manchepomme, métro Ramonville. Pas de distributeur à proximité, entrée prix libre, buvette et restauration sur place. Plus d'informations sur le site et la page Facebook de Kaleidos Film.
Vous êtes sur Onde Courte et vous écoutez Clap, l'émission du cinéma qui...
s'écoute.
Et nous sommes en direct à la Kino Fiesta. La Kino Fiesta, c'est un super événement qui se déroule à la MES, la Maison de l'économie sociale et solidaire, au 73 chemin de Manchepomme à Ramonville. Accessible en métro avec un peu de marche depuis la station Ramonville et en péniche selon des horaires que vous trouverez sur notre
page Facebook
et notre
la
site
page Facebook
internet
de la Kino Fiesta.
Voilà. Et nous sommes là dans les champs avec de l'herbe autour de nous. Et je vous rappelle encore une fois que si vous voulez nous envoyer un message pour que nous le diffusions, que nous y répondions, n'hésitez pas, vous pouvez le faire au 07 69 71 30 55. Je répète, 07 69 71 30 55. Et maintenant, c'est à Boubou.
Oh, la transition foireuse. Eh ben, maintenant c'est à moi. Putain, tu m'as pris de court, de fou. Maintenant, on va accueillir... Oui, tu n'as pas lu le conducteur que j'ai... Maintenant, on va accueillir Thibaut. Bonjour Thibaut.
Bonjour.
Thibaut, que nous avons déjà entendu dans le clap, puisqu'il présente depuis peu sa série de docu-sonores qui s'appelle Droit de cité.
Exactement.
Et tu viens nous présenter un nouvel épisode qu'on va s'écouter tous ensemble.
C'est ça. Donc le deuxième épisode qui fait évidemment suite au premier qu'on a diffusé dans Clap au mois d'avril, si je ne dis pas de bêtises. Et donc pour celles et ceux qui ne l'ont pas entendu, je vais un peu replanter le décor. Donc c'était à la base un documentaire sonore sur le paysage sonore d'un quartier de Toulouse, la cité de Mermoz. Et le quartier en question a un paysage sonore assez étrange, puisque il est survolé de couloirs aériens, donc des avions passent à peu près tout le temps, matin, midi, soir. Ce qui fait que c'est très très difficile à supporter pour les habitants qui par exemple se font réveiller la nuit. Donc, c'est le premier aspect, la première facette de ce paysage sonore là. Et la seconde facette qui correspond donc au deuxième épisode de cette série, c'est le silence. Quand des avions ne passent pas, on n'entend rien. Il ne se passe rien. Il n'y a pas de voix, ou très peu. Et les raisons en sont multiples, et l'une d'elles touche à l'urbanisme. J'en dirai pas davantage, puisque c'est donc l'objet de ce deuxième épisode que je vais donc vous laisser découvrir.
Je propose qu'on écoute ça tous ensemble.
Allons-y.
Journée, bon début, ça me faisait un peu bizarre. Puis maintenant, je le regarde par dessous, comme ça. Je dois même dire que ça me donne envie d'aller voyager, ça me donne envie de... Ouais, je dis, ah tiens, c'est EasyJet qui arrive, tiens, c'est le telle heure d'EasyJet. Ouais, non, ça me, franchement, ça me gêne pas.
Où est-ce que vous aimeriez aller ?
Si je devais partir, là, maintenant ?
Ouais.
Mayotte.
Mayotte ? Vous êtes en vacances ici ?
Ah oui, ouais.
Vous avez de la famille ici, dans le quartier ?
Ouais, ouais.
Et ça fait combien de temps que vous êtes là ?
Ça fait une semaine.
Alors qu'est-ce que vous en pensez ?
Si, la vie d'ici, c'est pas comme chez nous.
Chez vous, c'est comment ?
Ben, nous, presque... on est un peu libre, quoi. Tandis qu'ici, on est trop fermé.
Comment ça, trop fermé ? C'est que les gens sont...
Voilà.
Ils sont passés les uns sur les autres ?
Voilà. Chez nous, on a plus de liberté qu'ici.
C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est les logements, vous voulez dire ? Les gens vivent dans des tours et...
Voilà.
Chez vous, c'est l'inverse ?
Oui.
Vous vivez dans des maisons ?
Oui. Vraiment, c'est chacun dans son coin. Il n'y a pas trop de rencontres. À part les hommes, oui, je vois des fois le groupe beaucoup.
Et à Mayotte, c'est différent ? Comment ça se passe ?
Là-bas, on est toujours presque en groupe, quoi. Toujours il y a la famille, tout le temps. Là-bas, on est toujours ensemble.
Et vous vous retrouvez dans quel lieu ? Dans quel type de lieu vous vous retrouvez ? Dans les lieux publics, comme ça ?
Ils sont en vacances, il n'y a rien. Pour les personnes, vous les retrouvez où ? Il n'y a rien. Pour les jeunes, pour... Il n'y a rien dans le quartier.
Oh, il faudrait qu'il y ait plus de choses. Moi, ce que je reproche sur Bagatelle, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de... À part le foot... Là, il n'y a rien. Mon fils, il fait du judo, il faut que je l'amène à 2 km d'ici. Voilà. Il n'y a rien sur Bagatelle.
C'est à la sous-sportive, vous voulez dire ?
Oui, voilà. Il faut aller d'autre côté, Rennerie.
Avant, il y avait un club de football. Il y avait les seniors qui jouaient. Quand on ne jouait pas encore, on allait les voir. Hein ? Là, il n'y a plus les seniors qui jouent.
C'est les matchs en quelle division ?
Je jouais en PH.
C'est promotion honneur ?
Promotion honneur, oui.
Donc vous allez les voir dans les tribunes à la fin ?
Enfin, voilà, ouais. Les week-ends, on allait soit les voir, soit on allait au cinéma, mais souvent on allait les voir jouer au foot.
Ici, c'était bon ?
Ouais. Il y a une période, ils ont joué contre Martigues.
Ouais.
En Coupe de France.
Coupe de France ?
Ouais.
Martigues, c'était quelle division à l'époque ? Vous vous souvenez ?
C'était en deuxième division.
Ah ouais ! Pas mal.
Bien.
Ça, c'est fini.
Ouais, maintenant c'est fini. Maintenant il y a les jeunes.
Ah, mais ça, c'est bon, c'est un bon.
n'y a pas. Qu'est-ce que vous voulez vous retrouver? Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Où voulez-vous vous retrouver ici?
Alors, en fait, vous ne pouvez pas le pratiquer. Enfin,
non, dans le continent. Si je veux, je sais pas, j'ai envie de me faire, je veux envie de me retrouver des amis, on va se faire un resto, mais on va aller en centre-ville. Qu'est-ce que vous... Allez, vous allez manger où, là? Allez. À part les seuls kebabs là, qu'il y a au centre commercial, là, l'huile, elle pue à 10 000 km quand vous passez. Qu'est-ce que vous voulez manger, là?
Il n'y a aucun bar à la Farouette.
Pourquoi il n'y a aucun bar?
Eh bien, on va le demander. Avant, il y en avait un ici. Avant, ça, c'était un centre commercial. Ici, là. Ouais. Comme ça.
Là où il y a les habitations?
Là, avant, c'était un centre commercial. Et là, maintenant, c'est...
Mais ça a été remplacé par des logements.
Ils ont tout cassé. Il y avait un bar, il y avait un supermarché, un bureau de tabac, une boulangerie, des primeurs. Il y avait de tout. Et là, ce qu'ils ont fait, ils ont fait 4 bâtiments. Ils ont tout enlevé. Là, maintenant, dans le quartier, dans tout le quartier, t'as pas un bar. Derrière, on n'a même pas une salle. On demande une salle à la mairie, ils ne veulent pas nous donner une salle. Okay. On a des décès, nous, quand il y a des décès, les Maghrébins, on se réunit. On demande une salle, ils ne veulent pas nous la donner. Il faut qu'on fasse la guerre. D'ailleurs, les municipaux, vous pouvez leur dire, les municipaux, on les attend là bientôt là, pour les nouvelles municipales. Il a inauguré un truc de gosses, là, salle de gosses, une aire de jeu pour les gosses. Il a inauguré la salle de bagatelle qu'il a dans la personne. Faut montrer 4 branches pour avoir la salle. Et voilà où ce qu'on en est. Et t'as les gosses pour n'importe quoi maintenant. C'est pour ça qu'il y a la délinquance au quartier. Trop de délinquance, c'est pour ça. Trop d'abandon. La mairie ne suit pas, il n'y a rien. Il n'y a rien à la mairie, rien. Le dingue fait rien pour nous. Il a mis des maires de quartier, tu vas maintenant au maire de quartier. Tu demandes rendez-vous tout seul, tu dis je vais dans le quartier, tout ça. Pourquoi? Comment y attendre? Tu peux attendre. Hein?
Oui, elle est dramatique cette disparition. Oui, il est terrible ce silence qui se prolonge. À chaque drame semblable, il m'a semblé
que l'on mourait non d'un accident mais du silence. Je suis pas d'accord avec ça. Il ensevelit mieux qu'une
pluie de cendres. Du 8 jours de silence, on ne revient pas.
Mais aujourd'hui, troisième jour d'une disparition angoissante, nous sommes quelques heures à ne pas
renoncer à Mermoz.
C'est. Je vois Marianne. C'est du bouquin Marianne?
Non. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui l'a écrit.
Ah ouais?
Ouais.
Eh bien, je ne me serais pas levé pour rien aujourd'hui. J'aurais appris quelque chose.
Ouais. Ouais. Cela dit, vous avez dit à un moment que vous n'étiez pas d'accord avec une phrase. Je crois que c'est à chaque drame semblable, il m'a semblé que l'on mourrait non de l'accident mais du silence.
Ouais.
Vous n'êtes pas d'accord avec ça?
Non, du tout.
Qu'est-ce que vous en pensez?
On ne meurt pas du silence. Silence est reposant. C'est, je sais pas, c'est la sérénité, c'est l'apaisement, c'est.
Et c'est aussi la séparation.
Oh, la séparation,
on se parle pas.
Ah oui, mais là on pourra en parler pour les gens. Là, moi, j'en vois en ville, au McDo ou ailleurs, un groupe de jeunes étudiants, au collège. Ils s'assoient, ils ont pris leur truc, ils s'assoient. En faisant la queue, ils sont en train de textoter. Ils s'assoient, il n'y a pas un mot qui se dit. Moi, je suis tout seul, je suis dans mon silence. et eux, ils sont dans le silence aussi. Mais eux, c'est un silence idiot. Voilà, je suis resté devant la télé là, depuis ce matin. Peinard.
Qu'est-ce que vous avez regardé?
peu des infos, j'ai regardé des émissions sur la Une, les daubes de la télé. Les dogmes de la télé. Mais attaquez-vous aussi à ça. La télé, c'est plus polluant que le silence ou le manque de possibilité de sortir et tout ça dans un quartier. La télé. Vous regardez BFM, c'est une daube sans nom, ce truc. Et j'y suis toute la journée dessus. On ne sait pas où aller. Les chaînes, avant, il y avait trois chaînes. J'ai connu trois chaînes de télé. Le soir, il y avait toujours quelque chose d'intéressant. Au jour d'aujourd'hui, il y en a 25 ou 26 avec la TNT, sans abonnement. C'est de la merde toute la semaine. Des conneries.
Vous la regardez quand même.
Ben, il n'y a que ça à voir. Sinon, je sors les CD, les DVD.
Voilà. Ayant à son bord ces quelques lignes retraçaient le drame de Jean Mermoz et de ses compagnons qui s'étaient engloutis dans l'Atlantique. Les nouvelles reçues n'apportaient aucun espoir.
Ça va mieux.
Les nouvelles routes de la soie, celles du 21e siècle, doivent être celle de la justice et du climat.
Pinocchio, ton nez s'allonge. Tu plonges dans le mensonge.
L'État n'est plus le premier actionnaire de l'aéroport de Toulouse-Blagnac.
3, 2, 1, 1.
Augmenter le trafic de l'aéroport, ce qui pourrait créer
des gaz à effet de serre, les compagnies aériennes devront prendre désormais leur part de responsabilité.
Ladies and gentlemen, my first message is that France is back.
Arrête tes songes. Il n'y a pas de singe. Va ranger ton linge. Et il n'y a pas de renard pour expliquer ton retard. Son mouchoir, le poète de bar. Il a une rime au chapeau, des courants d'air sous le manteau. Il a comme une odeur de fumée. Il a la gueule des mal-aimés. Il vit sa vie quand il fait noir, le poète de bar. Personne ne sait quel âge il a.
Boire. Jusqu'à ce que jamais soif ne revienne. Rêver courir jusqu'à en perdre haleine. La haine, chaîne sans fin qui détruit les âmes fraternelles jusqu'aux odeurs de sourds. Survivre à ton regard inquisiteur. Suis-je le loup ou le berger ?
Apparaître comme un rêve. Apparaître. J'entends. Je lis des mots, mais je ne comprends pas leur sens. Ils sont bien compliqués. Il faut avoir l'air intelligent. Moi, j'ai mon bac plus 7. Moi, j'ai une nouvelle recette. Mais ça se vend pas bien. Alors les mots, il faut les colorier, il faut les baptiser, il faut les mâcher. Quand on est à l'école, on nous apprend à les conjuguer. Je chante, tu chantes, tu chanteras, nous chanterons, vous chanterez. Tu parles. Jamais on apprend à chanter.
Moi, je ne sais pas chanter, alors je suis allée apprendre à slammer.